maintien.
We're in the seventh chapter of 1 Corinthians.
Mm-hmm. Prions.
Let's pray.
Seigneur, merci pour l'aspect pratique de ta parole.
Lord, we thank you for the practical aspect of your word.
Avec toi, Seigneur, avoir une relation, ça ne signifie pas être coupé des réalités terrestres.
With you, Lord, to have a relationship with you doesn't mean being cut off from earthly realities.
Tu nous invites pas à un mysticisme éthéré.
You don't call us to asceticism.
Tu nous invites à marcher avec toi dans la sainteté.
You invite us to walk with you in holiness.
Dans l'amour.
In love.
Pour toi et pour les autres.
For you and for others.
Seigneur, tu nous aimes et tu sais ce qui est bon pour nous.
Lord, you love us and you know what is good for us.
Seigneur, nous te remercions pour ce passage qui parle du mariage, du divorce.
And we thank you, Lord, for this passage that speaks of marriage, of divorce.
Aide-nous à bien le comprendre.
Help us to understand it.
Parce que nous savons, Seigneur, que ces préceptes sont donnés pour notre bien-être.
Because we know, Lord, that these principles are given for our well-being,
pour ta gloire,
and for your glory,
et qu'ils sont la vérité.
And that they are true.
Bénis l'annonce de ta parole, Seigneur. Amen.
Just bless the announcing and teaching of your word, Lord. Amen.
Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais enfant, j'étais fasciné par les prestidigitateurs.
I don't know if you're like me, but when I was a child, I was in awe of magicians.
Ceux qui font des tours où on ne comprend rien.
Those that do those tricks and we don't understand anything.
On m'avait acheté une petite valise de magicien.
Et my parents bought me a little suitcase of magicians.
C'est vrai qu'il y en avait un ou deux qui étaient pas mal, mais c'était rien du tout comparé à ce qu'on pouvait voir à la télé. Et il y a des tours que jusqu'à présent, j'ai toujours rien compris. Notamment celui de la femme coupée en deux. Vous voyez cette jolie jeune femme qui vient se mettre dans une espèce de boîte bizarre.
There's that beautiful young woman that goes into that strange box.
Et puis le magicien, le prestidigitateur va enfiler des épées à droite et à gauche.
And then the magician sticks those swords in on all sides.
Il semble que même une petite merguez ne pourrait pas en réchapper.
It seems that even a little sausage, a merguez, couldn't get away from those.
Et puis là, il prend la grosse scie et il coupe en deux.
And then he takes the big saw and cuts it in half.
Et je me demandais toujours qu'est-ce qui se passait à l'intérieur.
And I always wondered what was happening inside.
La chair, les dents métalliques qui rentraient dans la chair.
The teeth of the metallic saw that enter into the flesh.
Mais après, il jetait un voile.
But then he throws a sheet or a cover over it.
Prenait son bâton de magicien.
And takes his magic stick.
Abracadabra.
Abracadabra.
Et il rouvrait la boîte.
And he opens the box.
Et la femme en sortait souriante.
And the woman comes out smiling.
Recousue.
Sewed back together.
Elle n'était pas en soins intensifs.
She didn't go to the intensive care.
Au contraire, comme dit un ami pasteur.
In the contrary of Pastor friend says,
elle sourit, on a l'impression qu'elle dit c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue.
She's smiling as if it was the best experience she'd ever had.
Ça c'est la magie, ça.
But that's magic.
C'est du spectacle.
It's the spectacular.
Mais la Bible nous dit que le divorce,
but the Bible tells us that divorce,
c'est un peu aussi couper en deux une seule chair.
Is like cutting into one flesh.
Et à l'inverse du tour de magie,
and as opposed to the magic trick,
la séparation est absolument douloureuse, pénible.
The separation is very painful.
Elle laisse des plaies béantes.
And leaves great open wounds.
Et ceux qui sont passés par le divorce disent toujours il n'y a pas de vainqueur dans un divorce. D'autres ajoutent les seuls qui gagnent à ces histoires de divorce, ce sont les avocats. Aujourd'hui, on entend des statistiques alarmantes.
And today we hear of alarming statistics.
On entend dire qu'un mariage sur deux se termine en divorce.
We hear that one marriage in two ends in divorce.
En recherchant un peu ces statistiques,
but when you search through these statistics,
j'ai eu la joie de voir qu'en fait les statistiques sont moins mauvaises que n'y paraît cette statistique.
I have the joy of discovering that the statistics aren't as bad as they lead us to believe.
Lorsqu'on dit qu'un mariage sur deux se termine en divorce, en fait, les gens vont à la mairie et prennent le nombre de divorces qui ont été prononcés dans l'année et le nombre de mariages qui ont été prononcés dans l'année. Et là, on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a que 50% de... Il y a deux fois plus de mariages que de divorces, mais il y a la moitié de divorces, oui.
And with those figures, we see that there are just as many divorces, or half the marriages end in divorce.
Mm-hmm. Mais en fait, si on considère tous les couples mariés,
but if we consider all married couples,
le nombre de divorces est plus près de 1 à 5%.
The number of divorces is closer to 1 to 5%.
Alors j'étais un peu surpris de voir cela.
And I was a little surprised to see this.
Mais il n'empêche que la tendance actuelle, c'est vrai qu'un mariage sur deux se termine en divorce.
But it's true that the tendency is for one marriage out of two to end in divorce.
En 96, il y a eu près de 120 000 divorces en France.
In 1996, there were almost 500 divorces in France?
120,000.
120,000.
Il y a à peu près 13 millions de couples en France.
And there are about 13 million couples.
Il y en a 55% par consentement mutuel.
And 55% of those are by mutual agreement.
Deciding to split.
The divorce was by mutual agreement.
43% par faute.
43% were because of a certain fault.
Le gouvernement, la loi reconnaît l'adultère, la violence maritale, conjugale.
The law recognizes adultery as a fault or physical abuse, marital abuse.
2% c'est par rupture de la vie commune.
And 2% are because of a break in the life together.
Et c'est vrai qu'un divorce est toujours un divorce de trop.
And it's true that one divorce is always one divorce too many.
Dieu a beaucoup de choses à nous dire sur le divorce.
God has much to say to us about divorce.
Et si vous devez retenir une chose, sachez que Dieu a dit qu'il a horreur du divorce.
And if you are to remember only one thing, remember that God hates divorce.
Dans Malachie 2:15, il a dit haïssable est la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël.
In Malachi 2:15, God tells us I hate divorce.
Says the Lord. Mm-hmm. Dans notre lettre, nous avons dit que nous arrivons maintenant au moment où Paul répond à des questions qu'on lui a posées.
In our letter to the Corinthians, we have come to the point where Paul is answering questions that had been posed to him.
Sur le mariage, le célibat, la sexualité.
About marriage, celibacy, sexuality.
Et on va voir à partir du verset 10 que nous allons lire ensemble qu'il va parler du divorce.
And we'll see, starting with verse 10 in chapter 7, we'll read together that this deals with divorce.
Verset 10, chapitre 7, 1 Corinthiens. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Nous allons nous arrêter là.
So Pierre just read to us verses 10 through 24.
Dans ce passage, Paul ne va pas traiter de, entre guillemets, tous les cas de figure.
In this passage, Paul isn't going to deal with every possible case.
Nous allons nous attacher à trouver des principes.
We are going to look for principles.
Et je crois que lorsque l'on parle à quelqu'un qui est dans une situation où il envisage le divorce,
I think when we speak to people who are in a situation considering divorce,
ou quelqu'un qui a divorcé,
or someone who is divorced,
je crois que la première chose à montrer, c'est de l'amour pour la personne.
Of course, the first thing to show is love and consideration for that person.
Et c'est exprimer les vérités telles que le Seigneur nous les donne.
And to express the truths as God has given them to us.
Si les personnes écoutent les conseils du monde,
if the person listens to counsel from the world,
elles vont recevoir de mauvais conseils.
They will receive bad counsel.
Nous y reviendrons.
We'll come back to that.
Mais avant d'arriver à cette situation de divorce,
but before coming to the situation of divorce,
j'aimerais partager quelques conseils
I'd like to share some advice
que nous donnait notre pasteur de Seattle, qui sera peut-être là l'an prochain.
That our pastor in Seattle gave.
Et l'idée, c'est que il vaut mieux prévenir que guérir.
It's better to
announce, prevent,
to be preventative than to
pound of an ounce of cure is better than a pound of medicine.
Do you want to say that louder?
Non, comment ça se dit?
I don't know. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Thank you.
Exactly. Voilà. Ça veut dire la même chose. Il est plus facile de mettre de l'huile dans le moteur de votre voiture.
It's easier to put oil into the motor of a car
régulièrement,
regularly,
que d'attendre que vous couliez une bielle.
To
destroy your engine.
Wait to destroy your engine.
Et il en va de même dans notre relation avec notre conjoint.
And in the same way in our relationships with our spouses.
Mais il est même mieux pour ceux qui sont encore célibataires.
But it's even better for those who are still single.
De réaliser qu'ils ont un avantage sur les personnes qui sont mariées.
To recognize that they have an advantage over those who are married.
Et j'en vois qui sourit.
See some smiling.
Je dirais le principal avantage, c'est qu'elles ont ces personnes ont encore le choix.
The principal advantage is that you still have a choice.
Désolé, mais si vous êtes marié, vous n'avez plus le choix.
fine. Sorry, but if you're married, you no longer have a choice.
Si vous êtes chrétien,
if you're a Christian,
le mariage c'est un engagement à vie.
Marriage is a commitment for life.
L'engagement, ça veut dire ôter l'option de quitter.
And commitment means to take away any possibility of leaving.
Donc les quelques conseils concernent plutôt les personnes célibataires.
So this bit of advice concerns more the single people.
C'est vrai qu'on n'a plus tellement d'étudiants, on n'a plus tous nos étudiants ici.
It's true that many of our students have left.
Mais c'est pour ça qu'on enregistre le message.
That's why we're recording the message.
Un des premiers conseils, c'est épouser un croyant.
One of the first bits of advice is to marry a believer.
Dans 2 Corinthiens 6, 14, Paul va nous dire, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate.
Paul tells us to not enter a partnership or be bound together with unbelievers.
Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est le passage de 14 à 18 dans 2 Corinthiens 6, un passage clé.
Pierre just read us a key passage from 2 Corinthians 6, verses 14 through 18.
Qu'est-ce que c'est qu'un attelage disparate?
What is an unrighteous or unequal partnership?
Ça peut recouvrir, par exemple, une association économique avec un non-croyant.
That could be a business relationship with a non-believer.
Vous associez dans votre entreprise avec un partenaire qui n'a pas du tout les mêmes croyances que vous, qui ne croit pas en Dieu.
You may have a company and you draw into association with a partner who is not a believer.
De là découleront différentes approches dans l'éthique.
And out of that, obviously, there will be different ethical approaches.
Mais ça s'applique encore plus dans le cas du mariage.
But it applies even more to the case of marriage.
Plus loin, nous verrons dans le même passage du chapitre 7 que Paul dit que si on se remarie, il faut se marier dans le Seigneur.
Paul tells us further on in that same chapter that if we are ever to remarry, we should remarry in the Lord.
Souvent, les chrétiens qui tombent amoureux d'un non-chrétien justifient leur attirance en disant, je vais pouvoir transformer l'autre personne.
Often Christians who are attracted or fall in love with a non-Christian rationalize that they will transform that other person.
Je vais l'amener à Christ.
I will bring them to Christ.
L'évangélisation par le mariage.
It's evangelism by marriage.
Donc le plus souvent, c'est le croyant qui va être influencé dans l'autre sens.
But too often, it's the believer that's drawn in the other direction.
Ou bien sûr, au départ, si votre foi semble être une part importante de votre vie, l'autre va faire semblant de s'intéresser.
Or often, if your faith seems to be a very important part of your life, the other partner will appear to be interested in the beginning.
Mais vous prenez le risque de vous retrouver avec la personne la plus proche de vous.
That you take the risk, run the risk of finding the person closest to you.
Et vous ne pouvez pas partager cette partie importante de votre être, cette spiritualité, cet esprit que Dieu vous donne.
And being unable to share that part of you, that most important part of you, with the closest person.
La chose la plus importante, vous ne pouvez pas la partager.
So this spiritual thing, this most important thing, you can't share.
Ça doit être terrible.
That must be terrible.
Lorsque l'on parle de ce principe à des jeunes chrétiens en France,
when we talk about this principle to young Christians in France,
la réponse est oui, ça a l'air d'être une bonne idée.
Their response is usually, that seems like a good idea.
Mais je vois pas beaucoup de chrétiens à marier.
But I don't see many Christians to marry.
Dans l'assemblée ou même dans la ville.
In our church or even in the city.
C'est peut-être valable cette règle aux États-Unis où il y a beaucoup de chrétiens.
And that might be a rule that's valid in the United States where there's many believers.
Mais ici, il faut contextualiser.
Hein.
Il faut adapter le message aux réalités du terrain.
You have to adapt the message to the reality of where we are.
Et je sais que pour beaucoup de jeunes chrétiens, c'est vraiment une pierre d'achoppement.
And I know that for many young Christians, this truly is a stumbling point.
Mais là encore, c'est une question de foi en Dieu et en sa parole.
But again, it's a question of faith in God and in His Word.
Dieu nous demande de chercher d'abord son royaume.
God asks us to seek first His kingdom,
sa justice.
His righteousness,
et il va prendre soin de toutes les autres choses.
And He will take care of all other things.
Bien que ce ne soit pas cité tel quel dans le texte de Matthieu 6, je pense que le mariage, il peut aussi en prendre soin.
Even though he doesn't specify marriage in the text in Matthew 6, I'm confident that this is one of the things he will take care of.
Et je l'ai vu personnellement.
And I personally have seen,
même aux États-Unis,
even in the United States,
où des jeunes veulent aider un peu le Seigneur qui a l'air de tarder.
That people who want to help the Lord seem to hold back.
Elles vont pas s'engager dans l'église parce qu'elles sont pas encore mariées.
They won't get truly committed in the church because they aren't yet married.
Puis il y en a d'autres au contact qui veulent servir le Seigneur.
But on the opposite side, there's others who truly want to serve the Lord.
Qui vont s'impliquer dans l'église.
Who will become very involved.
Qui vont vraiment être impliqués au niveau local.
And very involved locally.
Ou qui vont répondre à un appel pour partir se former dans une école biblique.
Or respond to a call to go to Bible school and get training.
Ou qui vont même partir sur le champ de mission pour des périodes d'essai ou plus long terme.
Or who even go out to the mission field for short term or longer term.
Et devinez quelles sont celles ou ceux qui trouvent des époux chrétiens que Dieu peut vraiment unir et bénir.
And guess which ones most often find the spouses and God blesses their lives.
Ce sont ceux qui servent le Seigneur.
It's the ones who are serving the Lord.
Et qui essayent pas de calculer.
And who aren't calculating.
C'est vrai que l'école biblique, ça peut être un très bon endroit pour rencontrer un futur mari, une future femme.
It's true that Bible school can be a very good place to meet a future spouse.
Et un exemple, pour certains le connaissent, mon beau-frère Steve est parti missionnaire.
And some of you know the example of my brother-in-law Steve, who went out as a missionary.
Et le mariage, c'était vraiment un problème pour lui de ne pas être marié.
And his not being married was a problem for him.
Mais en étant sur le champ de mission, il a pu entretenir une relation par correspondance avec une autre jeune fille missionnaire.
But as he was out on the mission field, he began a correspondence with another young girl who was also a missionary.
Donc je vous dis pas, si vous voulez vous marier, partez missionnaire.
I'm not telling you if you want to get married to go out as a missionary.
Mais ne vous laissez pas, si vous sentez des sentiments pour un non-chrétien, n'encouragez pas ces sentiments.
But if you are having feelings, attractions towards a non-believer, don't entertain those.
Un deuxième conseil, c'est d'épouser justement quelqu'un qui est plein d'amour pour le Seigneur et qui a plein de zèle pour le servir.
Another bit of advice is to marry someone who is committed to the Lord and full of zeal.
Vous avez peut-être décidé de faire la tournée des églises.
You may have decided to go do the circle of the churches.
Puis de voir quelqu'un qui est pas mal physiquement.
And look for someone who's not bad physically.
Et puis lui demander est-ce qu'il est chrétien.
And ask him if he's a believer.
Comme il est à l'église, il dira oui.
And if he's at the church, he probably says yes.
Et donc, il ne s'agit pas de chercher à remplir les conditions minimum.
And it's not a question of having them meet minimum requirements.
Si vous avez de l'amour pour le Seigneur, vous allez vouloir trouver quelqu'un qui a de l'amour aussi réel pour le Seigneur.
If you really love the Lord, you want someone who also really loves the Lord.
Pas quelqu'un qui, par tradition familiale, vient une fois tous les 36 à l'église.
Not someone who, because of their family traditions, comes every so often to a service.
Un autre conseil, c'est d'épouser quelqu'un qui vous aime et qui vous chérit.
And another counsel, bit of advice, is to marry someone who loves you and cares for you.
Certaines personnes ont tendance à être attirées par des personnes qui les rabaissent.
Some people have a tendency to be attracted to people who kind of lower them.
Sans rentrer dans des théories psychologiques.
Not wanting to go into all the psychological theory.
Je crois qu'il y a un vrai piège pour certains, certaines.
I think there's a real trap for some.
Une espèce de romantisme dans l'idée d'aider quelqu'un qui est un peu paumé.
A real romanticism to help someone who's a little bit off or having problems.
Quelqu'un qui va être alcoolique, violent.
Maybe a violent alcoholic.
Et cette personne va avoir à cœur de d'aimer cette pauvre personne.
And the person is going to, in their heart, truly be drawn to and love that person.
Encore une fois, on le verra, votre rôle, c'est pas vous de sauver ces personnes.
But many times it's not your role to save that person.
C'est le rôle de Jésus-Christ.
It's the role of Jesus Christ.
Aussi, épouser quelqu'un qui soit sérieux, qui soit stable.
You should also look to marriage with someone who's serious and stable.
Il faut penser à une personne qu'on plutôt voir une, en la personne quelqu'un qui, qu'on va devoir aimer et respecter toute sa vie. On ne peut jamais être sûr de rien.
We can never be totally sure of anything.
À part les impôts et la mort, non.
Except for taxes and death. No.
Mais il ne s'agit pas d'avoir des doutes sur les sentiments de l'autre personne à votre égard.
But there should be no doubt about the person's feelings towards you.
Et aimer la personne, ça veut dire l'aimer au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau physique.
And to love another person is to love them spiritually, emotionally and physically.
Un autre aspect, c'est de penser à ce que le mariage, souvent, ça conduit à des enfants.
And another aspect to think about is marriage often leads to children.
Et est-ce que vous pensez que cette personne serait un bon parent pour vos enfants futurs?
And do you think that this person would be a good parent for future children?
Et vous me dites, ouais, ça fait beaucoup de choses tout ça.
And you might be thinking, wow, that's a lot of stuff.
Et moi je l'aime et je veux me marier tout de suite.
But I love that person and I just want to marry him right now.
Non, pour vérifier toutes ces choses, ça va prendre du temps.
But to really verify all these things, it takes time.
Il est bon de les connaître.
It's good to get to know them.
Pas en tête à tête dans une voiture en regardant le feu d'artifice.
Not just one on one in a car looking at fireworks.
Ou dans un repas, un petit repas aux chandelles dans un restaurant sympa.
Not even over a candlelit meal in a romantic restaurant.
Il faut prendre le temps de les connaître, de leur voir leur façon de vivre, leur façon de penser, de les voir avec des autres aussi.
One needs to take time and see the way they live, the way they relate to others in group situations.
Hollywood a fait du coup de foudre une chose spécialement romantique.
Hollywood has made falling in love something very romantic.
Mais pour les pompiers, le coup de foudre, c'est quelque chose qui laisse des débris calcinés.
But for firemen, when lightning strikes,
c'est pas joli. Et si au moindre moment vous avez des signaux un peu négatifs, prenez du recul.
Back off a little bit.
Paul nous dira plus loin que l'amour véritable est patient.
Paul tells us further on that true love is patient.
Remettez tout ça au Seigneur.
And put all of that before the Lord.
Priez, faites-lui confiance pour vous guider.
And pray. Put your trust in him to guide you.
Est-ce qu'il y a la paix dans votre cœur, la joie? Est-ce que Dieu bénit votre relation avec cette personne?
Is there peace in your heart? Joy? Is the Lord blessing your relationship with that person?
Ça, c'est des conseils pour ceux qui ne sont pas encore engagés dans le mariage.
And that's advice for those who are not yet committed to marriage.
Pour les autres, nous y venons au chapitre 10, à ceux qui sont mariés.
And for the others, in verse 10, chapter 7, for those who are married.
À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari.
It says, says, I give instruction not I, but the Lord, that the wife should not leave her husband.
Quand on a fait une petite parenthèse la semaine dernière, lorsque Paul va parler de ce qu'il dit et de ce que le Seigneur dit,
last week we explained a little aside that when Paul specifies whether it's he speaking or the Lord,
dans les deux cas, l'autorité de la parole est toujours là. C'est toujours Dieu qui inspire, qui parle. Et Paul veut faire la différence entre les paroles qui ont été, les enseignements précis qui ont été prononcés par Jésus et ceux qui n'ont pas été dits textuellement par Jésus.
Paul is just distinguishing between the literal words that Jesus pronounced and the idea that is not an exact quote from Jesus.
Et Paul avait rapporte donc l'enseignement précis qui avait été délivré par Jésus-Christ.
So Paul is giving us the precise teaching of the Lord.
Nous allons voir dans le Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des règles pour le divorce.
So we will see in the New Testament, but even in the Old Testament, there were rules concerning divorce.
Il y avait dans le Deutéronome 24.
In Deuteronomy 24.
Il était dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle. Et donc, l'ancienne alliance, Deutéronome 24, 1-2.
In Deuteronomy 24, 1 and 2, it says, when a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes, because he has found some indecency in her, and he writes her a certificate of divorce and puts it in her hand and sends her out from his house, and she leaves his house and goes and becomes another man's wife. So we see in Deuteronomy there was divorce.
Et donc Jésus avait dû commenter ce passage.
And Jesus commented on this passage.
Vous vous souvenez que souvent les pharisiens l'abordaient avec des questions où ils espéraient le coincer.
You remember that often the Pharisees would pose questions to Jesus to try and trap him.
Et ils étaient venus l'interroger en demandant, est-ce qu'il était permis à un homme de répudier sa femme? Est-ce qu'il était permis à un homme de divorcer?
And they came to Jesus at one point and asked him, is it permissible, allowable for a man to divorce his wife?
Et c'était un bon sujet à l'époque pour coincer quelqu'un.
And it was a good subject in that day to trap someone.
Vous vous souvenez que le roi Hérode Antipas avait épousé la femme de son frère.
You may remember that the king Herod Antipas married the wife of his brother.
Et Jean-Baptiste qui avait critiqué ce mariage incestueux.
And John the Baptist criticized this incestuous marriage.
En avait perdu la tête, littéralement.
And he lost his head because of it.
Mais surtout, c'était un sujet très discuté, très controversé parmi les rabbins.
But the rabbis especially discussed this question much.
Et la question, c'était de savoir qu'est-ce que c'était que ce quelque chose d'inconvenant dont parlait le Deutéronome.
And the question was, what was this indecency that Deuteronomy refers to?
Il y avait en gros deux façons de penser.
And on the whole, there were two ways of interpreting it.
Il y avait l'école du rabbin Hillel,
there was the school of the rabbi Hillel
qui estimait que ça voulait dire tout ce qui pouvait déplaire au mari, c'était quelque chose d'inconvenant.
And he said that anything that displeased the husband was indecent.
Si votre femme brûlait vos repas,
if your wife burned your meals,
alors c'était fini, hein, vous la renvoyez.
That was it. You send her away.
Puis il y avait une autre école qui était plus stricte, l'école du rabbin Shimei.
And there was another more strict school, the rabbi Shimei.
Et elle pensait que c'est quelque chose d'inconvenant, c'était des relations sexuelles avant le mariage.
And they interpreted this indecency as sexual relations before marriage.
Si un jeune marié découvrait que sa femme n'était plus vierge, il avait le droit de la répudier, de la divorcer.
If a young married man discovered his wife was not a virgin, he had the right to send her away, divorce her.
Et ça explique pourquoi l'ange a dû venir parler à Joseph.
And that explains why the angel was sent to speak to Joseph.
Lorsque Marie allait se retrouver enceinte par l'Esprit Saint.
When Mary found herself pregnant by the Holy Spirit.
Et l'ange avait dit à Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
And that's why the angel said to Joseph, do not fear, the child that Mary carries is from the Holy Spirit.
Dans Matthieu, il est dit qu'avant leur union, lorsqu'il avait trouvé qu'elle était enceinte, comme il était un homme de bien, il ne voulait pas dire du mal d'elle, il avait proposé de rompre discrètement avec elle.
And in Matthew it tells us because Joseph was a good man that he didn't want to make a big thing of it when he found she was pregnant. He was considering sending her away discreetly, quietly.
Et dans plusieurs passages, on voit comment Jésus répond à cette question, notamment Marc. On peut regarder Marc 10.
In several passages we see how Jesus responds to this question. Specifically, let's look at Mark 10.
Marc 10, verset 3, il leur répondit que vous a commandé Moïse. Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire un acte de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux époux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.
So Jesus tells them, what did Moses command you? And they said, Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away. But Jesus said to them, because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this cause, a man shall leave his father and mother, and the two shall become one flesh. Consequently, they are no longer two, but one flesh. But therefore, God has joined together. Let no man separate.
Et plus loin, il leur dit au verset 11, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première, et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère.
And further on in verses 11 and 12, whoever divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she herself divorces her husband and marries another man, she is committing adultery.
Dans Matthieu 5, 32,
and in Matthew 5:32,
Jésus, les mêmes propos sont repris, précisés. Jésus dit, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère.
Jesus again says in verse 32, I say to you that everyone who divorces his wife, except for the cause of unchastity, makes her commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery.
Jésus dit qu'en fait, s'il y a un divorce, sauf pour cause d'infidélité, à ce moment-là, le mariage est toujours valide devant Dieu.
So Jesus, in fact, is saying if there's a divorce, except in the case of unfaithfulness, in his eyes, the marriage still exists.
Dieu ne reconnaît pas le divorce.
God does not recognize divorce.
C'est pour ça que si la personne va avec une autre femme ou un autre homme, elle commet l'adultère.
And that's why he says if the person goes with another man or woman, they will commit adultery.
La dureté de nos cœurs est la raison pour laquelle Dieu a permis le divorce.
The hardness of our hearts is the reason God allowed divorce.
Vous dites peut-être c'est bizarre que Dieu permet des choses qu'il a en horreur.
And you might be thinking it's strange that God would permit something that he hates.
Nous on a tendance à nous dire si c'est permis c'est que ça doit pas être trop grave.
We have a tendency to think if something is permitted it can't be all bad.
Mais c'est ce que Dieu fait à longueur de journée avec nous.
But that's what God is doing all day long with us.
Il tolère des choses qu'il a en horreur.
He tolerates things that he hates.
Trop souvent, nous disons, s'il ne m'a pas encore réduit en un petit tas de cendres sur ma chaise, ça ne doit pas être si grave.
It can't be that bad.
D'autre part, tout le monde autour de nous le fait.
And anyway, everyone around me is doing it.
Non, ça c'est la grande patience de Dieu.
No, that is the Lord's great patience.
C'est sa grâce en action.
And that's his grace at work.
Il tolère nos péchés parce qu'il les a fait porter par son Fils.
He tolerates our sin because his son carried them for us.
Toutes les décisions qu'il peut détester que nous prenons,
and all the decisions that he hates that we make,
il les tolère.
He tolerates.
C'est pas du laxisme, c'est de l'amour.
It's not laxity, it's love.
Et plusieurs fois la Bible nous dit de ne pas nous y tromper.
And several times the Bible tells us not to be mistaken.
Un jour il va revenir.
One day he will return.
Et là il n'y aura plus temps pour la grâce.
And there will no longer be a time of grace.
Paul nous dit au verset 11 que si la personne est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc tous les efforts doivent être faits même s'il y a eu l'adultère, une immoralité sexuelle, pour garder le mariage vivant.
And Paul tells us in verse 11 that even in the case of infidelity or where the wife would leave, that most effort, the highest effort should be made towards keeping the marriage alive.
Il faut toujours chercher la réconciliation.
And we should always be seeking reconciliation.
À Corinthe, il y avait un autre problème, c'était les gens qui étaient devenus chrétiens depuis que Paul avait commencé à annoncer l'évangile.
In Corinth, there was another problem, those that became Christians since Paul had been teaching the evangel, the gospel.
Et leur question, c'était est-ce que je dois rester avec mon époux qui lui n'est pas croyant, mon épouse?
And their question was, do I stay with my spouse who is not a believer?
D'autant que dans leur Ancien Testament, dans le prophète Esdras, le sacrificateur Esdras, le livre d'Esdras, il était dit que si Dieu était en colère après le peuple d'Israël qui était marié avec des femmes étrangères.
In the Old Testament, with the prophet Esdras, God tells us that he was angry with his children Israel.
Il leur disait de se séparer de ces peuples, des femmes étrangères. Mais dans l'optique de Dieu et d'Israël, on sait que Israël c'était comme la femme de Dieu. Mais l'enseignement du Nouveau Testament, c'est de tout faire pour garder le mariage vivant. Le principe que Paul explique, c'est que le salut n'annule pas l'état de mariage.
And the principle Paul is explaining here is that salvation doesn't annul the marriage.
Au contraire, il le rend plus beau.
On the contrary, it makes it more beautiful.
Un mariage où l'un des deux époux est croyant est un mariage plus beau qu'un mariage sans Dieu du tout.
A marriage where one of the spouses is a believer is far more beautiful than a marriage where no one is a believer.
Verset 14, le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints.
Verse 14 tells us the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband.
Et plus loin, il nous met en garde de ne pas croire que c'est nous qui allons sauver notre partenaire.
And further on, he warns us not to think that we will be the ones who save our partner.
Verset 16, en effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari, ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme?
Verse 16 says, O wife, how do you know you will save your husband? How do you know, O husband, you will save your wife?
Mais Paul dit que le mariage est rendu plus beau.
But Paul tells us that marriage is made more beautiful.
Le non-croyant est sanctifié par l'autre.
The unbeliever is sanctified by the other.
Ça ne veut pas dire sauvé.
He doesn't mean saved.
Mais ça veut dire qu'il est en quelque sorte mis à part, plus près de Dieu.
But it means in a way he is set apart, close to God.
Au lieu de recevoir 100% de philosophie païenne,
instead of taking in 100% of non-believing pagan philosophy,
par la présence de l'autre, il va être mis en contact avec Dieu.
By the presence of the other, he will have contact with God.
Les enfants, eux aussi, ne sont pas sauvés.
And the children are not saved either.
Mais ils ont le témoignage proche d'eux d'un parent qui aime Dieu.
But they have the close witness of a parent who loves God.
Pierre disait la même chose. 1 Pierre 3, 1 et 2.
In 1 Peter 3, 1 and 2.
Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, même s'il n'est pas chrétien, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse.
It says, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.
Notez bien que ce ne sont pas nos paroles qui vont convaincre l'autre.
Note that it's not our words that are going to convince the other.
Mais notre conduite, nos actes concrets.
But our conduct, our concrete actions.
Et peut-être que parmi vous, il y en a certains ou certaines qui sont dans cette situation. Le mari, la femme n'est pas chrétien.
And maybe amongst us, some of you are in a situation where the husband or the wife is not a Christian.
Il ne s'agit pas d'embêter la personne régulièrement.
It doesn't mean you're to bug them regularly.
Il s'agit de vivre sa foi en amour et en vérité.
It means you are to live your faith in love and in truth.
La question qu'on se pose souvent, c'est quand est-ce qu'il est légitime pour un chrétien de divorcer ?
So the question that is often asked is, when is it legitimate for a Christian to divorce?
Nous avons vu que Jésus avait dit que c'était à la cause de la dureté de notre cœur que Moïse avait permis de le divorce.
We saw that Jesus said it was because of the hardness of our hearts that Moses allowed divorce.
Mais au commencement, c'était pas ainsi.
But in the beginning, it was not this way.
Bien sûr, ce n'est pas Moïse qui a permis. Il était le porte-parole de Dieu qui permettait cette chose.
Of course, it wasn't Moses who decided this. He was the spokesperson for God.
Qu'est-ce que c'est qu'avoir la dureté de notre cœur?
What is it to have the hardness of heart?
Je crois que c'est la détermination de faire ce que je veux.
I think it's the determination to do what I want.
Un cœur tendre, c'est le cœur qui est ouvert à recevoir l'instruction, la parole de Dieu. C'est un cœur qui est prêt à essayer d'obéir avec l'aide de Dieu. Et souvent, on voit des mariages où on a l'impression que c'est une lutte constante.
Have the impression that it's a constant battle.
Dieu n'est pas ne forme pas un trio avec le couple.
And God isn't a part. It doesn't make a trio with this kind of couple.
Jésus a donc dit que ce qui permettait le divorce, qui le rendait tolérable devant Dieu, c'était l'infidélité.
Jesus said that divorce is allowed before God when there is unfaithfulness.
Il utilise le mot porneia,
he uses the word porneia,
qui recouvre tout ce qui est immoralité sexuelle.
Which covers any sexual immorality.
Mais encore une fois, si la personne qui a commis cette immoralité sexuelle éprouve du repentir, veut changer,
but again, if this person who committed sexual immorality shows repentance,
si nous aussi nous devons avoir le cœur tendre et être prêts à accepter le pardon, donner le pardon. Et ici, au verset 15, une autre possibilité semble être le cas où l'un des époux s'en va sans donner de nouvelles.
Another case is apparent if one of the spouses leaves with no news.
Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas.
The brother or sister is not under bondage in that case.
Ça veut dire que vous êtes libre de choisir de vous remarier avec quelqu'un d'autre.
It means that you are free to remarry with someone.
Mais encore une fois, c'est mieux de prier et de travailler à la réconciliation.
But again, it's better to pray to work at reconciliation.
Il y a aussi l'aspect où la vie ou la santé d'une personne est menacée par l'autre.
There is also that situation where the life or physical health is threatened by one member.
Je crois que c'est l'intelligence sanctifiée de savoir qu'il vaut mieux s'éloigner d'une personne qui frappe l'autre.
It seems to me that it's pretty obvious that it would be justified to take a distance from one who is.
Et là aussi, de persévérer à vouloir conserver le mariage même à distance.
But still to persevere in keeping the marriage, but at a distance.
Mais dans toutes ces situations, c'est vrai que la chose dont les personnes ont le moins besoin, c'est quelqu'un qui vienne leur dit, il est dit, pof, point final.
But the last thing that a person in any of these cases needs is someone who comes and says, this is the way it is, or this is what is said.
Encore une fois, le divorce, c'est quelque chose de très très douloureux.
Again, divorce is something that is very, very.
Et dans tous nos contacts avec les personnes qui souffrent dans ces situations, l'amour doit nous caractériser.
And in all our contacts with someone experiencing this situation, we must evidence love.
Au verset 17 et suivant, Paul élargit un peu le principe.
Paul enlarges on this principle.
Il dit, si vous devenez chrétien, c'est ça que ça veut dire être appelé, votre appel. Si vous étiez marié, restez marié. Si vous étiez célibataire, vous pouvez rester célibataire.
If you were married, stay married. If you were single, be single.
Il dit, si vous étiez circoncis, n'essayez pas de devenir incirconcis, ça serait peut-être difficile.
Says if you were circumcised, don't try to become uncircumcised. That would probably be difficult.
Tout ça sont des choses extérieures.
But these are all exterior things.
Ce qui compte, c'est de vivre pour le Seigneur.
What counts is living for the Lord.
Et on pourrait accuser Paul de dire qu'en fait, il est pour le statu quo, même au niveau social, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est-à-dire, si vous étiez esclave, et bien restez esclave.
And we could accuse Paul of just supporting the status quo, the existing situation when you're in, that you're in when you're saved, continue that way.
Verset 21, il dit, si vous pouvez profiter et être libéré, alors profitez-en. Verset 21.
Verse 21 tells us that if you were a slave, remain a slave, but if you are able to become free, do that.
Mais là encore, c'est un aspect essentiel du christianisme.
But again, it's an essential aspect of Christianity.
Il place les choses célestes au-dessus des choses terrestres.
He puts heavenly things over earthly things.
Et souvent, nous dans le monde,
and often we who are in the world,
on pense que le problème, c'est les autres.
We think that the problem is the other person.
Et de là la grande illusion révolutionnaire.
That's where the great revolutionary illusion
qui ne reconnaît pas que le problème réel, il est en moi.
Is that we don't recognize that the real problem is in us.
La révolution en Russie, c'était pour supprimer les privilèges des tsars.
The revolution in Russia was to do away with the czar.
And their privileges.
And his privileges.
Et bientôt, c'est les responsables politiques qui ont eu les mêmes privilèges.
But then it was the political responsible people who took the privileges.
Trop souvent, on pense que si nos circonstances changent, alors tout va bien aller.
Too problem. We think if our circumstances were changed, everything would be well.
Si on est marié, on se dit, ah, si seulement j'étais célibataire.
If we're married, we think, oh, if I was only single.
Si on est célibataire, on dit, ah, si seulement je pouvais être marié.
If we're single, we think, oh, if I were only married.
Le problème, il n'est pas autour de nous, le problème, il est en nous.
But the problem isn't around us, it's in us.
J'aime bien la phrase qui dit, au cœur de chaque problème, il y a un problème dans le cœur.
I love the phrase that says, at the center of every problem, there is a problem in the heart.
Et souvent, les couples vont divorcer parce qu'ils pensent que tous les problèmes viennent de l'autre.
And often people, couples divorce because they think the problem is all with the other.
Et qu'ils vont avoir une vie sans plus aucun problème.
And that they will go on to a life with no problems.
Puisque bien sûr, tout était de la faute de l'autre.
Because of course, all the fault was with the other.
Mais après une lune de miel, souvent plus courte que la première,
but after a honeymoon, often shorter than the first one,
ils découvrent que le même genre de problèmes sont toujours là.
They discover that the same types of problems still exist.
Quand quelqu'un parle de voulant divorcer, parle de l'autre en disant c'est de sa faute.
When people in the midst of divorce speak of the other partner saying it's all their fault.
On peut être sûr qu'il y a un problème.
You can be sure that there's a problem.
Parce que ça signifie que la personne se considère parfaite.
Because that means the person considers themselves perfect.
Et on sait qu'à part Jésus, il n'y a pas eu d'homme vivant qui soit parfait.
Yet we know without Jesus, there is no perfection, no perfect man.
Jacques, dans son épître, dans sa lettre, au chapitre 4,
James, in his letter, chapter 4,
explique que les luttes, les guerres, les querelles viennent de nous-mêmes.
Explains that wars, quarrels, conflicts come from ourselves.
D'où viennent les luttes?
What is the source of conflict?
Et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres?
And where, what is the source of quarrels? Is not the source your pleasures that wage war?
Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux sans rien pouvoir obtenir.
You lust and do not have, so you commit murder. Vous êtes envious and cannot obtain.
Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions.
So you fight and quarrel, you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives so that you may spend it on your pleasures.
Je crois que c'est important de relire ce passage en le personnalisant, en disant d'où viennent mes problèmes, d'où viennent les querelles. Je convoite et je ne possède pas. Je suis meurtrier, je suis envieux, sans rien pouvoir obtenir. J'ai des querelles et des luttes. Je ne possède pas parce que je ne demande pas, je ne prie pas vers Dieu. Le problème, ce n'est pas les autres.
Pierre thinks it's important that we personalize this section. What is the source of my quarrels, my conflicts? Why do I lust and not have, commit murder? Why am I envious and cannot obtain?
Etc. Le problème, les autres ont des problèmes, c'est sûr.
The problem, of course, others do have problems.
Je ne peux pas régler leurs problèmes.
But I can't take care of their problems.
Je ne peux pas supprimer l'attrait de l'argent dans la société.
I can't do away with the attraction to money that exists in our society.
Certains ont essayé de le faire, de supprimer tous les nobles.
Some have tried to do that. They did away with all the nobles.
Et puis c'est une bourgeoisie qui s'installe avec les mêmes problèmes.
But then a bourgeoisie grew up that had the same problems.
La solution, c'est chacun personnellement d'admettre que je suis le problème.
The solution is for each one of us individually to admit we are the problem.
Que j'ai tous les torts.
That I have all the faults.
Et m'en remettre à Dieu pour qu'il me change.
And that I put myself before God so that he can change me.
Et la solution, c'est que si chacun fait ça,
and the solution is that if everyone does this,
alors les autres se comporteront mieux.
Others will behave better.
Mais là encore, je me souviens du pasteur Nick,
but again, I remember Pastor Nick,
qui a eu des problèmes très sérieux avec sa femme à une époque.
Who at one time had very serious problems with his wife.
Il a dit qu'on lui avait conseillé de reconnaître que les problèmes, c'était lui qui en était responsable à 200%.
And someone advised him that for all the problems in their marriage, he should admit that he was responsible for them 200%.
C'est pas une manipulation.
It's not manipulation.
C'est de voir tous les problèmes que je cause.
It's looking at all the problems that I cause.
Alors là, le Seigneur peut agir, peut travailler dans votre cœur.
And then the Lord can move and work in your heart.
Il rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix.
And he reminds us that we have been purchased at a great price.
Le prix du Fils de Dieu qui est mort pour nous sur la croix.
The price of Christ, the Son of God, who died on the cross.
Et nous dit de ne pas devenir des esclaves des hommes.
And he tells us not to become slaves of men.
Et en fait, il dit, comme l'a dit Bob Dylan, vous devez être l'esclave de quelqu'un.
And he's saying, in fact, as Bob Dylan says, you must be a slave to someone.
Et ne soyez pas l'esclave des hommes.
Don't be a slave to men.
Mais l'esclave de Dieu.
But become a slave of God.
Et si Dieu a imaginé le mariage pour être un état qui demeure.
Imagine that.
Non, Dieu a imaginé.
If God thought of marriage as something that would last.
Il a horreur du divorce.
And he hates divorce.
Alors faisons tout pour ne pas envisager cette option.
We should do everything to not consider this an option.
Encore une fois, c'est le divorce n'est pas le péché impardonnable.
But again, divorce is not the unpardonable sin.
Le péché impardonnable, c'est de rejeter l'Esprit de Dieu.
The unpardonable sin is to reject the Spirit of God.
Et encore une fois, Dieu est là pas pour nous donner des règles qui nous font du mal.
And again, God isn't here to give us a list of rules that hurt us.
Et il se réjouit lorsque ses enfants s'aiment.
He rejoices when we love one another.
Lorsque ses enfants se pardonnent.
When his children forgive one another.
Grandissent dans la foi.
And grow in their faith.
Amen.
Amen.
Prions.
Let's pray.
Seigneur, nous touchons là des sujets qui peuvent être très personnels.
Lord, we touched upon subjects that can be very personal.
Qui pour les plus jeunes peuvent encore paraître bien lointains.
For the younger ones, it may seem very far off.
Et pour ceux qui sont dans ces problèmes, Seigneur, qui peuvent paraître un fardeau incroyable.
But for those who are in the midst